Il leur dit, « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Puis il prit une coupe, remercia Dieu et dit, « Prenez cette coupe et partagez-la entre vous, car je vous le dis désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Seigneur, nous te remercions pour ton sang qui a coulé sur la croix, parce que tu nous as délivrés, parce que tu as fait une alliance avec nous qui ne sera jamais rompue, parce que nous savons que tu as accepté le sang de Jésus-Christ, parce qu'il est ressuscité d'entre les morts. Amen. Ensuite, il prit du pain, et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Seigneur, nous nous souvenons que tu as livré ton corps sur la croix. Nous savons que ce n'était pas juste par conviction idéologique, ce n'était pas juste pour donner un exemple. Mais si tu as livré ton corps, c'était pour porter mon péché. Si tu étais mis à mort, c'est parce que j'avais péché. Et c'est pour que je puisse être lavé de mes péchés que tu l'as fait. Merci d'avoir accompli cela sur la croix pour moi. Amen. Après le souper, il prit de même la coupe et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. Cependant, celui qui me trahit avec moi est à cette table. Le Fils de l'homme s'en va conformément à ce qui a été fixé, même malheur à l'homme par qui il est trahi. » Et on le sait, Judas était à la table avec Jésus, c'était un de ses amis, il l'a trahi. Et Christ est allé au bout de ce pourquoi il est venu. Et il prend la coupe et puis il l'attend et dit, « Mais ceci est le sang qui a été versé pour le pardon des péchés. » Et il dit aussi qu'il ne prendra plus le fruit de la vigne jusqu'à ce que ce soit accompli. Et il l'a accompli dans les lieux célestes. Il allait offrir son sang, il allait présenter son sang dans le temple céleste auprès du Père pour que nous ayons nous-mêmes un accès auprès de lui. Et nous allons maintenant partager la Sainte Cène. Et vraiment, c'est une grande grâce qui est là devant nous. C'est de se dire, mais Christ est mort pour mes péchés, il est ressuscité, son sacrifice a été agréé. Et maintenant, la seule chose que je peux faire, c'est accepter ce qu'il a fait pour moi. Alors je vous invite vraiment à venir dans une attitude de reconnaissance, dans la joie, que maintenant, ce qui devait être accompli, a été accompli. Il est ressuscité, le péché était vaincu, et il n'est plus question de ça. Seigneur, nous te remercions parce que tu es venu, parce que tu es venu nous parler. Nous te remercions pour ce culte que nous pouvons vivre. Nous avons vraiment envie que ce soit comme un parfum de bonne odeur qui monte jusqu'à toi. Et nous avons maintenant envie de nous placer à l'écoute de ta parole. Viens illuminer notre esprit, viens nous remplir de ta présence pour que ta parole devienne lumineuse pour nous. Amen. Et je propose qu'on lise le texte ensemble pour commencer. Si tu peux juste passer encore une fois. Voilà. J'ai choisi le texte de Romains 6. Il y a déjà quelques versets qui ont été lus avant, mais on va le lire. Et vous avez vu, j'ai décalé un peu le texte en orange à gauche, et, enfin à droite, côté mur, et en bleu, côté porte. En fait, c'est vous qui allez lire, parce que vous m'avez déjà beaucoup entendu. Comme ça, vous allez parler aussi un petit peu ce matin. Et on va séparer la salle en deux, là, juste entre Jean-François et Christine. Là. On va séparer en deux, entre Thérèse et Ramsès. Et cette partie va lire ce qui est en bleu, et l'autre partie va lire ce qui est en orange. Et le texte sera affiché. Pascal, je te laisserai passer, il y a trois slides. En effet,
si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne.
Nous savons
que notre vieil homme a été crucifié nous sommes morts avec Christ,
nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, car nous savons que le Christ ressuscité ne va plus. La mort n'a plus de droit sur lui.
Christ est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes.
Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit.
De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme mort pour le péché.
Et comme vivant pour Dieu, pour Jésus-Christ, notre Seigneur.
Que le péché ne règne donc plus dans votre corps, pour vous soumettre à lui par ses désirs. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de la justice.
Mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie. Et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. En effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce.
Amen. Et c'est un texte qui est absolument magnifique, qui nous parle de l'œuvre de Christ et qui met en contraste la mort et la vie. Christ est mort pour que nous puissions vivre. Et quand on fête Pâques, on peut se demander, mais pourquoi fêtons-nous Pâques ? On l'a rappelé ce matin déjà de multiples reprises, parce qu'il est mort et ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Mais quand on regarde autour de nous, les médias n'en parlent pas, dans les magasins, il n'y a aucune référence à Jésus-Christ. Pourquoi fêter Pâques ? Alors, je pense que si on pose la question autour de nous, il y a déjà une bonne raison, c'est parce que ça donne quelques jours de congés supplémentaires. Et ça, on n'est pas contre. Et puis, il n'y a même pas besoin de parler de Jésus-Christ pour justifier cela, pour justifier ces congés. On peut parler de la vie, du renouveau, du printemps. Et puis, les lapins qu'on voit partout, hein, ça symbolise bien ça, c'est vraiment le lapin, le lièvre particulièrement, c'est le bon animal pour symboliser la vie. J'ai appris il y a 2 semaines que le lièvre a 2 utérus. Donc c'est-à-dire qu'il peut faire des petits, on continue. Et c'est assez incroyable. Donc en fait, il a des petits, puis la maman, pendant qu'elle est en train de porter ses petits, elle peut commencer à en faire déjà d'autres pour être sûr que ça y est assez vite, pour être sûr qu'il y ait assez de vie. Puis les lapins aussi, hein, ça y va. Hein, quand on a des lapins puis qu'on les fait porter, ben, il faut suivre après derrière pour les manger parce que ça va vite. Ça va vite. Donc le lapin est un très bon animal pour fêter la vie. Et puis les œufs, ben, aussi, ça représente assez bien la vie. Quand un œuf est clos, il y a la vie qui en jaillit. Alors si il y a tellement de choses à fêter à Pâques, la vie, le renouveau, la famille, l'écologie, le printemps, et j'en passe, pourquoi parler de Jésus ? Alors je vois qu'il y en a certains qui sourient quand même, parce que si vous êtes là ce matin, c'est que bien sûr vous avez envie de parler de Jésus à Pâques, sinon vous ne seriez pas venu là. Mais en dehors de ce lieu, est-ce vraiment nécessaire de parler de Jésus ? Oui. Pourquoi ? Parce que c'est la vie. Amen. Il y a pas mal de choses qui précèdent Pâques, en fait. Il y a la semaine dernière, on appelle le dimanche des rameaux, quand Jésus il entre triomphalement à Jérusalem. Il y a les foules qui viennent l'accabler, qui viennent mettre des branches devant lui. Et puis, il y a l'institution de la Sainte Cène, ce que nous avons rappelé juste avant, le jeudi soir. Et puis, il y a la trahison, le reniement des disciples, le jugement, les coups de fouet, la crucifixion, la mise au tombeau, l'attente. Ces derniers jours, avez-vous simplement pensé à tous ces événements qui ont eu lieu? Avez-vous ouvert votre Bible pour lire l'un ou l'autre des textes dans un de vos entretiens quotidiens avec Jésus, par exemple? Alors, je ne vais pas vous jeter la pierre et puis faire le fier en disant que j'ai relu tous les textes. Mais si vous ne l'avez pas fait, si on ne l'a pas fait, si on a de la difficulté à se plonger dans ces événements qui ont eu lieu il y a très, très longtemps, parce que 2000 ans, c'est quand même pas hier. Est-ce vraiment nécessaire de le faire? Est-ce utile? Quel profit en tirer? Et il me semble qu'il y a en tout cas, deux raisons. La première raison, c'est que dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ, il y a eu un événement central dans toute l'histoire de l'univers. Le péché a été vaincu. Le pouvoir de la mort a été anéanti. La vie a triomphé. Le monde, avant la mort de Jésus-Christ et après sa résurrection, n'est plus le même. Il a changé radicalement. Et rien que pour cette raison, ça vaut la peine de dire, mais oui, on fête Pâques parce que Jésus est mort et il est ressuscité. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'on pourrait imaginer que la mort de Christ est comme un de ces grands événements historiques dans l'histoire. Il s'est passé quelque chose d'absolument incroyable dont on bénéficie encore aujourd'hui. Mais l'événement en lui-même ne nous concerne plus vraiment. On peut penser par exemple, j'imagine qu'il y a tout un tas d'événements, mais on ne se souvient pas vraiment, mais on pourrait penser à la chute du mur de Berlin. C'est, dans l'histoire de l'Europe, c'est un événement absolument central. Il y a eu quelque chose d'incroyable, ça a eu lieu il y a à peine 30 ans, en 1989. Le mur de Berlin est tombé. Il y a eu des contacts entre l'Est et l'Ouest. Et aujourd'hui encore, si on connaît l'Europe telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec une paix, une stabilité, la possibilité d'aller visiter Berlin, d'aller jusqu'en Ukraine, ben c'est parce que ce mur, il est tombé. C'est parce qu'il y a eu un événement dans l'histoire où ce mur est tombé. Et aujourd'hui, on est au bénéfice de cela dans tout un tas de choses qu'on vit au quotidien. Je suis sûr, quand on va à la Migros, il y a des produits qui viennent de l'Europe de l'Est. Il y a des céréales qui viennent de l'Europe de l'Est. On ne mangerait pas le même pain si le mur était toujours là. Et pourtant, on va peut-être vaguement se souvenir de la chute du mur de Berlin en automne, mais est-ce que quelqu'un connaît la date de la chute du mur de Berlin? Il y en a certainement un ou deux qui le connaissent. Moi, je ne m'en souviens pas. 3 novembre, peut-être. Mais ça, c'est un événement qui a eu lieu dans le passé, mais aujourd'hui, on ne s'en souvient pas vraiment. Et la mort de Jésus-Christ, c'est complètement différent. Parce que non seulement c'est un événement central dans l'histoire de l'humanité, mais c'est un événement central dans ma propre vie. Parce que quand j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie, il y a eu un changement radical. J'ai été libéré, délivré du péché. Et on l'a lu. On a été unis dans sa mort et on sera unis dans sa résurrection. Ainsi, la mort du Christ n'est pas un acte isolé du passé, mais également un événement central dans mon existence. Lorsqu'il est mort sur la croix, j'ai été mis à mort avec lui. Mon péché, ma vieille nature, le vieil homme, mes mauvais désirs ont été mis à mort avec lui sur la croix. Et j'ai été revêtu d'une vie nouvelle par sa résurrection d'entre les morts, vie que j'attends avec impatience de vivre pleinement lors de son retour. Et c'est ce qui a été manifesté quand on a été baptisé. On a été plongé dans l'eau pour montrer qu'avec Christ, on est mort, qu'on était enseveli avec lui, qu'on allait jusque dans le tombeau avec lui. Et puis, on ressort de l'eau pour montrer qu'il y a une nouvelle vie qui est là, qu'on ressuscite avec lui d'entre les morts. Puis cette eau symbolise que, ben, on est lavé de nos péchés, on ressort propre, on est entré avec toute notre grâce et on ressort tout propre. Et c'est ce que Jésus vient faire. On arrive vers Jésus avec tout notre péché, toute notre saleté, et il vient nous laver. Et ce qui est intéressant dans le baptême, c'est que lorsqu'on se fait baptiser, ben, il y a quelqu'un qui officie le baptême. On ne va pas tout seul se plonger dans le lac, puis on ressort, puis on dit « Youhou, j'ai été baptisé ». Et je crois qu'avec la mort de Jésus-Christ, c'est un peu la même chose. On ne peut pas par nous-mêmes dire, se mettre à mort, mettre à mort notre vieille nature. On n'y arrivera pas. On a besoin que quelqu'un le fasse. Et cette personne, c'est l'Esprit qui vient nous saisir et nous unir à Christ, nous unir sur la croix, nous unir avec lui pour que notre vieille nature, elle meure, pour que notre péché soit mis à mort. Et quand on se convertit, quand Dieu accomplit cette œuvre en nous, quand un pécheur reconnaît qu'il a besoin de Jésus-Christ pour être sauvé, eh bien, il y a quelque chose d'assez étrange qui se passe. On est purifié de nos péchés. On est libre par rapport aux péchés. Et on a l'impression, quand on vient de se convertir, que plus rien ne pourra nous résister. Et je me rappelle de ce témoignage d'un pasteur qui racontait sa conversion alors qu'il avait une vingtaine d'années, il s'est converti. Et suite à cela, il avait prévu de faire depuis de longue date déjà un voyage à Amsterdam avec ses copains. Il s'était déjà engagé, il avait déjà payé le voyage, donc il n'avait pas envie d'annuler. Et puis je ne sais pas si vous connaissez la réputation d'Amsterdam, mais c'est une ville qui n'a pas très bonne réputation. J'aurais même envie de dire qu'elle a mauvaise réputation, mais ça dépend du point de vue, parce que ce jeune homme, il allait à Amsterdam justement pour la réputation de cette ville. Le sexe, la drogue, l'alcool. Alors après la conversion, il avait moyennement envie d'y aller. Mais il s'est dit, voilà, tout est prêt, j'ai pas tellement de choix, je vais y aller. Et Amsterdam, c'est une ville qui est très jolie. C'est une ville où il y a plein de canaux, où il y a des vieux bâtiments avec des charpentes apparentes. C'est vraiment magnifique. Et quand on se balade dans la vieille ville, il y a plein de jolies petites ruelles. Et dans ces ruelles, il y a des vitrines assez étranges. Parce que d'un coup, on se balade, et si on ne sait pas, on peut vraiment se faire avoir en tant que touriste. On se balade et d'un coup, on passe derrière une vitrine, et derrière la vitrine, il y a une femme. Une femme à moitié nue. Et moi, je me dis, c'est absolument dégoûtant. Enfin, c'est la pire de la... Je ne sais pas comment l'être humain a pu en arriver là. Mais il y a ça à Amsterdam. Et c'est une des raisons pour lesquelles les gens vont à Amsterdam. Et on peut payer pour profiter de cette femme. Et ce jeune homme, il arrive à Amsterdam, il va avec ses copains dans les coffee bars, il se retrouve dans les rues, j'imagine qu'on lui a proposé toutes sortes de drogues, il voit ses vitrines, et il n'y a rien qui se passe, il n'a même pas envie. Alors que quelques mois plus tôt, avant sa conversion, mais il n'aurait pas hésité à sortir un petit ticket pour aller profiter d'une fille de joie. Il n'aurait pas hésité à acheter 2-3 champis pour avoir une expérience délirante. Et là, rien, même pas envie, il n'y a pas touché. Parce que quand il a été sauvé par Christ, il y a un lien qui le liait avec le péché qui a été rompu. Et il a été libre de dire, mais non, ça ne m'intéresse pas. Alors j'imagine que son voyage n'a pas dû être spécialement intéressant, mais au moins, il a pu résister à toutes ces tentations. Sa nature pécheresse avait été mise à mort avec Christ et était définitivement morte. Et puis on peut penser aussi à ce couple sur le point de divorcer qui rencontre Christ. Madame rencontre Christ, monsieur rencontre Christ. Ils se réconcilient, 40 ans plus tard, ils sont toujours mariés. Et je me dis, mais tu es grand, c'est génial. Ou on peut encore penser à cette jeune femme de bonne famille qui a une vie rangée, pas spécialement de problèmes, destinée à un avenir brillant. Elle rencontre Jésus-Christ, sa vieille nature est mise à mort et elle décide d'aller servir Jésus. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. En effet, celui qui est mort est libéré du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Après notre conversion, on a vraiment envie de vivre cela, on a envie de vivre avec Dieu. Et on est tout feu, tout flamme, parfois libéré d'un gros handicap, d'un péché qui nous pourrissait la vie, parfois en pleine lutte pour pouvoir être délivré de cela, mais avec pour la première fois de notre vie la certitude qu'il y a une issue, qu'on va s'en sortir parce que Dieu nous soutient. Puis le temps passe, la vie continue, et on réalise qu'on pêche toujours. Enfin, je ne sais pas si vous avez fait ce constat dans votre propre vie, mais moi je l'ai fait ce constat, que je suis chrétien depuis plus de 10 ans, et pourtant, il m'arrive encore de pécher. Et ce vieil homme, qu'on était tellement sûr d'avoir été crucifié sur la croix, qui est jamais plus il pourrait nous embarquer dans ces vieilles histoires, mais on a parfois l'impression qu'il dirige nos pas, qu'il conduit nos pensées, nos actions. Et face à ce constat, on cherche des solutions. Et il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. Premièrement, on pourrait remettre en question l'expérience qu'on a eue avec Jésus-Christ. Mais on ne va pas le faire, parce que c'est tellement extraordinaire ce qui s'est passé avec Jésus-Christ qu'on trouve une autre solution. Alors si l'expérience est bien réelle, si on a vraiment rencontré Christ, si Christ il est vraiment mort et ressuscité pour nous, ben, peut-être que c'est notre perception du péché qui doit changer. Le péché a été vaincu, et donc il n'est plus si dangereux que ça. Il ne nous conduit pas vraiment à la mort, puisque Christ est ressuscité. Et puis, même si on pêche, de toute façon, Dieu nous pardonnera. Jésus est mort pour ça. Dieu fait grâce. On n'est plus sous la loi. Alors pourquoi se faire du souci? Et ce raisonnement nous conduit tout droit vers un certain laxisme ou autre solution. On peut avoir la réaction tout à fait inverse, plutôt que se dire que le péché n'est pas important, se dire mais il faut qu'on lutte plus fort contre le péché, il faut qu'on se mette vraiment à lui résister, qu'on respecte les règles que Dieu nous a données. Il faut qu'on mette toute notre énergie pour s'en sortir. D'ailleurs, la Bible nous donne plein de règles utiles à suivre pour cela, pour être sans péché. Alors, pour éviter d'être dans le dilemme d'être chrétien et de pécher, il faut respecter la loi, et comme ça, le problème est résolu. Et ça nous conduit tout droit vers le légalisme. Et quand je lis Romains 6, ça me rassure sur ma vie. Car je me dis que si Paul a écrit cela aux Romains, c'est que ça avait du sens pour eux. Eux non plus, bien que morts avec Christ, n'étaient pas parfaitement débarrassés du péché. Ils n'en avaient pas fini avec le péché. Ils étaient chrétiens, mais ils luttaient encore dans leur chair avec le péché. Et que leur dit Paul? Le péché n'est pas important? Non, il dit à la fin du chapitre 6, le salaire du péché, c'est la mort. Le péché est un réel problème, même une fois qu'on a été délivré, même une fois que Christ est mort pour le péché. Le péché est toujours le même, il nous conduit toujours à la mort. Que leur dit-il? Bande de pécheurs, vous auriez dû mieux lire la loi. Elle vous explique ce qu'est le péché et ce qu'il faut faire. Non, il leur dit, mais regardez l'œuvre du Christ. Rappelez-vous de la Pâque. Rappelez-vous qu'il est mort et que vous êtes mort avec lui. Il est ressuscité des morts et vous êtes ressuscité avec lui. Vous luttez avec votre péché. Votre vieille nature a été mise à mort avec Christ. Et si elle ne se souvient pas, si votre vieille nature ne se souvient pas qu'elle est morte avec Christ, eh bien, il faut le lui rappeler. Et lorsqu'on est confronté à notre péché, lorsqu'on est tenté ou lorsqu'on est pertinemment en plein dans un péché, il ne suffit pas d'avoir une pensée pieuse envers Dieu. Il s'agit d'aller se placer au pied de la croix et de dire à Dieu nos luttes, de dire mais là je lutte dans mon péché, là ma vieille nature elle a des soubresauts dans son tombeau, elle a envie de ressortir. Il faut s'approcher de Dieu et puis lui demander pardon. Il faut demander à Dieu qu'il vienne mettre à mort cette vieille nature. Parce que nous, on aura beau essayer de le faire, on n'y arrivera pas. On a besoin que ce soit lui, que ce soit l'Esprit qui nous saisisse et qui nous unisse à Christ sur sa mort. Et c'est pas facile. Une mise à mort, c'est pas facile. C'est douloureux. Et dans ce processus, notre orgueil est inévitablement touché parce qu'on est obligé de reconnaître notre dépendance de Dieu. Je n'arriverai pas à vaincre mon péché. Et c'est la raison précise pour laquelle j'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de Jésus-Christ parce que lui seul peut accomplir cette œuvre. Alors sommes-nous condamnés à lutter encore et toujours avec les mêmes péchés, les mêmes luttes ? Non, non, heureusement, il y a une progression dans la vie chrétienne. Notre justification a été accomplie une fois pour toutes. Nous sommes déclarés justes, nous sommes purifiés de nos péchés. On est lavés. Et notre sanctification est progressive. Nous avons chaque jour à grandir en Christ, à nous débarrasser de tout ce qui nous retient en arrière. Et depuis que nous avons, avant que nous soyons rachetés, nous n'avions pas le choix de pécher. Nous péchions parce que c'était notre nature. Quand nous avons été rachetés, maintenant nous avons le choix de ne pas pécher. Et la bonne nouvelle, c'est que quand Christ reviendra, quand il nous reprendra près de lui, nous n'aurons plus le choix de pécher. Nous n'arriverons plus à pécher. Et on voit qu'il y a une progression dans notre libération que Christ accomplit. La délivrance est proche. Et si vous en doutez qu'il y a une progression, regardez comment vous viviez avant de rencontrer Jésus-Christ. Quels fruits vous portiez. Vous faisiez des choses, et moi également, dont on a honte aujourd'hui. Mais est-ce qu'on en avait honte à l'époque ? Oui, non. Ah, il y a certaines choses qui n'étaient pas très correctes, mais tout le monde le faisait. Et si on en a honte aujourd'hui, c'est pour deux raisons. La première, c'est parce qu'on a une perception de la justice qui est différente. Et la deuxième, ben c'est parce qu'on n'est plus la même personne qu'avant. On a évolué, on a grandi. Et ce qu'on faisait avant, on se dit, mais comment c'est possible ? À Pâques, on aime fêter la résurrection de Jésus-Christ. Mais la résurrection de Christ n'a d'intérêt que parce qu'il est mort avant. Il est mort pour le péché du monde. Il est mort pour ton péché. Il est mort pour mon péché. Et sans la résurrection, sa mort ne nous donnerait aucune assurance. Car nous ne serions pas sûrs, certains, que son sacrifice a été agréé par Dieu. On ne serait pas sûr que c'était suffisant pour calmer la colère de Dieu à mon égard. Mais il est ressuscité. Sa mort a été suffisante. Dieu a accepté son sacrifice. Et nous pouvons avec Christ mener une nouvelle vie. Christ est mort et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Nous sommes appelés à laisser notre vieille nature pour nous soumettre entièrement à Dieu, pour faire ce que Dieu nous demande, pour faire ce qu'il nous ordonne. Nous devons laisser notre vieille nature, notre péché derrière nous, sur la croix, et marcher dès à présent en nouveauté de vie, comme esclaves de la justice. Saviez-vous que vous étiez esclaves de la justice ? Je trouve ça magnifique. Pas facile d'être esclave de la justice, mais quitte à choisir, je préfère être esclave de la justice que esclave du péché. Alors, est-ce que vous voulez le dire avec moi? Je suis esclave de la justice. Je suis esclave de la justice. Nous ne nous battons pas pour une cause perdue. Nous ne cherchons pas à augmenter notre petite fortune, notre petite aura personnelle. Nous ne cherchons pas à satisfaire notre chair. Nous vivons pour la justice. Nous vivons pour Dieu. Alors est-ce qu'on le proclame ensemble? Christ est mort, Christ est ressuscité et je suis esclave de la justice. Est-ce que vous voulez le dire avec moi? Christ est mort, Christ est ressuscité et je suis esclave de la justice. Et notre espérance, c'est qu'un jour, Christ reviendra. Il nous relèvera d'entre les morts. Alors, la vie que nous apercevons déjà aujourd'hui deviendra une réalité. Nous recevrons des corps glorifiés. Comme Christ est sorti du tombeau, nous aussi, on sera délivrés de la mort pour avancer en nouveauté de vie. Et pour terminer, j'aimerais vous proposer une petite expérience. Et j'ai besoin d'un volontaire, d'un homme fort. Allez, Néron, tu veux venir? Et j'ai besoin d'un deuxième volontaire, n'importe qui. Ça peut aussi être un homme fort. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça peut être un adulte, ça peut être un enfant. Voilà, alors viens.
J'ai vu que tu as choisi que des Africains.
Et ouais, et ouais. Ah non, ça, je la donne à... Tiens. Ça va avec la... Tu peux les mettre dans le dos, s'il te plaît. Oui, avec la montre, hop, peut-être enlève-la. Ça évitera les problèmes. Dans laquelle on est quand on est sous l'emprise du péché. C'est-à-dire que... Toi, tu le tiens bien, hein. Tu peux aller chercher la petite boîte verte qui est là-bas, s'il te plaît.
Moi?
Ouais, toi.
Oh, je tiens.
Toi, tu tiens, tu le laisses pas aller. Allez, viens par là, viens par là. Il est trop fort, Abdella. Mais même si tu veux aller la chercher, il n'y arrive pas. Alors, on aurait pu aussi l'attacher au poteau si on voulait. Puis on aurait pu... Tu peux amener Abdella jusque de l'autre côté, là-bas, aller... Puis voilà, quand il tire, il finit par être obligé de suivre. Et ça, c'est la situation avec le péché. Quand on n'a pas été délivré par Christ, ben, il nous mène par le bout du nez. Puis des fois, il nous mène à des endroits où on n'a pas envie d'aller. Puis on sait pertinemment que c'est mauvais, on sait pertinemment que son affaire c'est mauvais, puis on y va quand même. Et Christ, ce qu'il vient faire... Il vient rompre ce lien avec le péché. Et maintenant, est-ce que tu veux pas aller chercher la boîte verte? Voilà, c'est super. Et ça, c'est l'état dans lequel on est. On a été libérés et le péché ne peut plus nous tenir sous son emprise. Alors, je vous remercie pour l'illustration. Aaron, tu peux juste venir, j'ai quelque chose à vous donner pour vous remercier d'avoir participé. C'est exactement ce que le péché vous fait faire. Il va vous tendre un petit sucre pour que vous retourniez vers lui. Et bien souvent, ça marche. Et il n'y a plus aucune raison. Mais des fois, on peut croire qu'on est encore lié, on peut croire qu'il va nous donner quelque chose de bon, et on retourne vers lui. Mais ça ne change rien que la corde elle a été coupée, et qu'on est libre. Et quand ça arrive, ben on peut dire, mais Christ, tu m'as délivré, et je veux mettre à mort ma vieille nature avec toi, sur la croix. Viens, Saint-Esprit, me renouveler. Seigneur, nous te louons, nous te remercions pour ce que tu as accompli sur la croix. Nous ne voulons pas rester indifférents à ton œuvre. Nous avons envie que tu nous saisisses par ton esprit et que tu nous rendes participants à la mort de Christ pour que nous marchions en nouveauté de vie, pour que nous soyons des esclaves de la justice. Seigneur, on a besoin de toi jour après jour pour que tu nous permettes de vivre libre du péché. Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois où nous sommes allés chercher quelque chose vers le péché, comme si nous étions encore liés à lui. Mais nous sommes libres et nous voulons vivre dans cette liberté pour marcher en nouveauté de vie. Merci pour ce que tu as accompli sur la croix. Amen.